Je me trouve ici sur le port de Camaret en ce mois de février. Pas ou peu de mouvement en cette saison, un vent de nordais, le froid, le mauvais temps font que les quelques pêcheurs qui pratiquent encore leur activité ici sont en stand-by. Le mois de février est la période creuse pour, par excellence, hein, les cours du poisson en ce début d'année sont les plus bas de l'année en général. Et on attendra donc les beaux jours de mars tout en préparant le matériel, révisant le bateau. C'est ce qu'on voit ici sur le quai. Il y a des bateaux ici sur le quai en réparation, d'autres sont en stand-by sur leur corps mort. Et on attend que ça se passe. Mais qui dit pêche, dit marailleur. Et ça tombe bien, nous allons découvrir un établissement de marée avec Pierre Bouvier. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Alors nous sommes ici chez vous, dans votre magasin de marée, c'est comme ça que ça s'appelle, où vous commercialisez des crustacés. Mais avant de parler crustacés, je voudrais vous poser une question. Quelle différence y a-t-il entre un marailleur et un poissonnier, sachant que tous les deux vendent des produits de la mer?
Donc la différence entre un marailleur et un poissonnier, c'est plutôt le phénomène d'être grossiste, quoi. Le poissonnier ne fait pas de vente en gros spécialement. Nous, on achète en gros, on revend en gros. Un poissonnier peut acheter à la criée plutôt des petits lots et revend à lui à remettre sur son étal.
Donc traditionnellement, vous pouvez, vous, en tant que grossiste, donc vendre à des poissonniers.
Ah oui, ça n'interdit pas. Le métier a changé, mais rien ne nous empêche d'avoir évidemment des clients poissonniers, pas de souci.
Et tout à l'heure, on disait tout à l'heure qu'il y a une évolution qui s'est passée dans les criées, qui était quand même un lieu de vente réservé au mariage à une époque. Avec l'informatique, un poissonnier, même installé à Paris, pourrait acheter en criée ou pas?
Bien sûr, oui. Depuis une bonne dizaine d'années, les criées de Bretagne et de France, d'ailleurs, se sont mis en informatique. Et donc, il suffit d'avoir une caution bancaire et n'importe qui peut, à ce moment-là, acheter en criée.
Ça a dû complètement modifier les cours?
Ah bah, le marché a été complètement modifié, mais on s'adapte. Voilà.
Alors pour revenir ici à votre activité, vous avez une particularité, c'est que vous êtes un marailleur, non pas de poissons, mais de vivants. Vous vendez du crustacé, et le crustacé doit se vendre vivant obligatoirement?
Le crustacé se vend vivant, oui.
Donc ça suppose qu'il faut une logistique et des installations particulières. C'est, en arrivant ici, on entend le bruit des pompes, l'eau de mer qui circule, vous avez besoin d'une qualité d'eau, d'une température, comment ça marche?
Alors ici, oui, l'atelier de mariage que j'ai, mes viviers, c'est le premier entrepôt après la pêche. Ou après la criée. Et donc là, on les met en bassin, et puis après, tous les jours, on travaille le produit, et suivant les commandes, on les met en caisse.
C'est du stock.
Voilà. C'est donc une zone de stockage.
Alors pour bien comprendre, le crabe qui est débarqué du bateau va par la criée, vous l'avez acheté à la criée, la criée, vous l'envoyez ici, en stock.
Voilà, c'est ça. Il peut y avoir plusieurs réseaux de production aussi ou de livraison. Hein.
Alors
on
justement,
peut faire de l'import, on peut faire. Ouais. Il y a multiples choses. On n'est pas obligé, on n'achète pas tout par la criée. Hein. On peut acheter aussi directement au bateau. Il suffit de déclarer ses tonnages et tout, mais.
D'accord. Voilà. Alors justement, à propos de bateaux, je me souviens régulièrement, il y avait toujours des bateaux de Morlaix qui venaient débarquer leur pêche. Parce qu'il y avait des bateaux de Camaret dans le temps, mais après, il n'y avait plus de bateaux à Camaret. Les bateaux de Morlaix venaient ici débarquer.
Ouais, on les voit régulièrement, oui, pour faire des mi-marées, ce qu'on appelle des mi-marées.
Et vous pouvez acheter au bateau directement?
Ah ben, non, ça appartient à l'armateur, donc c'est un circuit privé, quoi.
D'accord. Il n'y a plus de bateaux artisans?
Non. C'est généralement des bateaux qui sont en copropriété avec...
des grosses boîtes, des gros trusts.
Voilà.
D'accord. Donc en fait, le patron qui commande le bateau de pêche n'est pas propriétaire, il ne décide pas
Il décide... Enfin, moi je ne suis pas dans le secret des gens, mais il est propriétaire généralement à jusqu'à 50%, 30%, ça dépend des armements. Quoi.
Parce qu'il débarquait à peu près quoi, 15 tonnes par bateau, par marée
Sûrement, oui. Quand la pêche est bonne, les 20 mètres, ça fait 15 tonnes.
Alors, juste parce qu'on parle de pêche, comment se comporte la ressource naturelle sur le crustacé?
Sur le crustacé, en particulier le tourteau, à aujourd'hui, nous n'avons pas de quota. Il y a un nombre de casiers par pêcheur sur les bateaux, mais le quota, en général...
Donc la ressource se porte bien.
La ressource est bonne.
Alors ça, on parle du crabe.
Il faut regarder ça sur un environnement européen un petit peu. Vous voyez. Voilà, il peut manger. Voilà, le marché a complètement évolué. Maintenant, c'est l'Europe. On est en concurrence avec du tourteau irlandais, du tourteau écossais. Sur le marché de Rungis, tout arrive en même temps et c'est à nous de s'adapter par rapport au marché. Quoi.
Le consommateur le sait que c'est un tourteau écossais? C'est marqué?
Alors, il y a eu des essais et c'est très compliqué à mettre en place. Donc, par rapport à pour se mettre en phase avec la législation, on doit indiquer la zone de pêche et l'engin de pêche. Voilà. Mais vous me permettez de dire qu'un homard de Jersey n'est pas moins breton qu'un homard de Guilvinec.
Qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux crustacés? C'est qu'il y en a un qui est peut-être plus fragilisé parce qu'il est plus fatigué des transports et tout comme ça, quoi.
Ah bah, c'est sûr que le tourteau écossais qui arrive à Rungis, qui a fait deux, trois jours de camion vivier, il est un petit peu plus fragile, quoi. Et la qualité du produit, si vous voulez, plus vous avez un tourteau qui a été bien pêché, moins il y aura de mortalité, quoi.
Oui, bien sûr.
Plus on prend soin du produit, il n'y a pas de souci. En fin de chaîne, vous avez un produit extra.
Il y a un exemple frappant sur ce genre de produit, c'est le homard du Canada. Au départ, je ne sais pas qu'est-ce qu'il vaut, mais le homard du Canada, arrivé en France, au moment de Noël, je le précise, il est très fatigué, il est même vide parce qu'il a séjourné dans des villiers depuis 3 mois. C'est pas du tout la même qualité que le homard qui est pêché il y a quelques jours. Parce que la pêche au Canada se termine quand? Fin septembre, je crois.
C'est ça, ouais.
Donc on vend du homard à Noël pour des homards qui a été pêché au mois de septembre.
Au mois de septembre, qui arrive ici par avion, enfin tout. Voilà. Et nous, même pour revenir par chez nous, vous voyez, on peut acheter beaucoup de homards sur le mois de septembre jusqu'à octobre. Mais un homard qui a fait du vivier, franchement, il peut être blessé, il se vide, il se nourrit moins, il peut se blesser, et donc il se vide aussi un petit peu, quoi. Et quand vous voulez acheter pour Noël, vous faire plaisir, des produits qui valent sortie marailleur au moins 50 € et sans faire de fioriture, le consommateur a le droit d'avoir un produit avec toutes ses pattes, ses antennes, etc. Donc on est obligé de prendre ça sur la dernière marée de l'année, hein, où là, donc, les bateaux bretons, par exemple, vont sur les maquiers en dessous de Jersey, là, et là, on a du beau homard de roche et tout.
On parlait de concurrence tout à l'heure. Le Finistère Nord, avec Roscoff et puis Mogariec, qui sont leaders sur le marché de la production, enfin de française tout au moins.
De pêche.
Ces flottilles, maintenant, appartiennent à des trusts, c'est ça que vous me dites là?
Alors, des trusts, j'en sais rien, mais ce sont des grosses sociétés qui tiennent ça. Et c'est pour ça, comme je vous disais tout à l'heure, là, les patrons pêcheurs ont généralement, je ne sais pas dans les confidences, mais de un tiers à peut-être la moitié du bateau, et ils travaillent pour l'armateur.
D'accord. Voilà. D'accord. Il n'y a plus de bateaux de pêche artisans?
Non, les artisans, non. Il y a eu une industrialisation des bateaux de pêche artisanaux, et puis maintenant, ils sont pieds et mains liés avec l'armateur.
Alors, on parlait du tourteau, mais vous ne vendez pas que du tourteau au vivier.
Ici, on fait aussi pas mal d'araignées. Mm-hmm. Donc, moi, j'achète particulièrement un bon tonnage d'araignées à la criée de Brest.
D'accord. Homard.
Toute l'année.
Homard.
Homard. Alors les homards, j'en achète en criée de Brest, et puis un petit peu de la Manche.
Et qu'est-ce que devient la langouste de la mer d'Iroise, si royalement reconnue?
À la langouste de la mer d'Iroise, et ben vous voyez, depuis 4-5 ans où on a mis un petit peu des règles un peu strictes, et ben vous avez maintenant une bonne pêche.
C'est vrai,
par exemple, pour l'année dernière à Noël, il y avait 2 tonnes à la vente.
Mais ce sont des langoustes pêchées au filet, pas au casier, c'est ça. Ouais. Il n'y a plus de casier. La langouste pêchée au filet ne pose pas de problème sur sa mortalité par rapport au casier, non?
Non.
Non, ça va.
Non, moins que le tourteau. Après, c'est toujours pareil, hein, si c'est bien. Ça dépend ce qu'il y a dans les filets. Si la langouste est écrasée avec d'autres produits, c'est pas bon, quoi.
Alors, donc on parlait de crustacés, et puis vous avez aussi des coquillages, vous avez quoi, des huîtres, des praires, des choses comme ça?
Oh bah moi je fais les coquillages de la rade de Brest.
De la rade.
Depuis tout le temps, depuis le début, mais bon, vous voyez aujourd'hui il y a beaucoup de restrictions, donc la coquille Saint-Jacques est fermée depuis un an,
Alors, elle est fermée pour des raisons
sanitaires,
parce que qu'est-ce qui se passe?
Il y a une bactérie amnésiante, l'ASP, donc pour principe de précaution, les autorités sanitaire ne demande de pas la pêcher.
D'accord. Vous connaissez quelqu'un qui a été gravement malade avec une coquille Saint-Jacques?
Ah, moi, non, personnellement, non. Non. Et vous savez, on est le principe de précaution.
Et si on transformait cette coquille Saint-Jacques en poudre de lait, ça ne marcherait pas?
Ah non. Non. Alors, par rapport à cette bactérie amnésiante, là, donc les pêcheurs ont le droit, il y a une autorisation de pêcher toute la coquille de la rade de Brest pour déjà renouveler. Et après, elles sont décortiquées en usine, quoi.
À l'atelier. Voilà. À l'atelier, enfin, en usine, à terre.
Ouais, les services vétérinaires ont accordé des agréments à 2 ou 3 sociétés pour décortiquer spécifiquement cette coquille Saint-Jacques, entre guillemets,
entre malade. Guillemets, contaminée. D'accord, voilà. D'accord. Alors, est-ce que
elle est contaminée.
Mais est-ce qu'elle est réellement contaminée au risque de, ou c'est voilà, une façon...
Ça peut effectivement, il n'y a pas de raison, hein, ça peut affecter des personnes vulnérables, comme on dit les nourrissons, les personnes les plus âgées. Quoi. La bactérie, elle est dans le foie.
C'est ça.
Le point noir, donc c'est ce qu'on ne mange pas.
Que personne
mais, voilà, voilà. On ne peut pas mettre sur le marché des points noirs partout.
Mais la noix, la noix qu'on consomme.
Elle, le pied est excellent.
Donc il n'y a aucun risque.
Et voilà. Non, il n'y a aucun risque. Et vous trouvez, tout l'hiver, nous avons trouvé sur le marché des coquilles Saint-Jacques de la rade de Brest, décortiquées.
Donc en fait, vous avez une activité à l'année, vous êtes ouvert toute l'année.
Oui.
Avec sans doute, j'imagine, des pics saisonniers.
Oui. Hein.
Et vous vendez aussi en période d'été, vous vendez au détail ?
Ah bien sûr, oui. Alors, Camaret a un effet attrayant qui est pas mal, qu'on essaye de conforter. Et l'été, il y a beaucoup de monde. Hein.
D'accord.
C'est pas mal de...
Donc,
notre premier client l'été, évidemment, c'est bien le détail. Le détail.
Alors, on va finir l'interview tout à l'heure par des problèmes plus culinaires. Donc, vous vendez du crustacé vivant, mais vous en vendez aussi du cuit ?
Alors, je fais de la cuisson à la demande.
D'accord.
Voilà. Donc moi, je ne suis pas du tout spécialisé pour la vente de produits cuits ou congelés. Ça, c'est un autre métier. C'est les grosses sociétés, les grosses industries qui font ça. Moi, je fais de la cuisson à la demande.
Pour le particulier.
Voilà. Quand il rentre de la plage, je lui cuis son crabe et il rentre le manger chez lui le soir.
Vous ne voilà. fournissez pas la mayonnaise ?
Non, chacun son métier.
Un petit détail sur le tourteau, pas l'araignée mais le tourteau. Pourquoi les tourteaux sont coupés ? Je parle des pinces, pourquoi ?
Alors on coupe les pinces, donc déjà les tourteaux sont coupés sur le bateau, directement avant de les mettre en vivier, pour 2 choses, pour protéger le manipulant derrière, le marailleur, parce qu'un tourteau qui pince ça fait mal.
Et puis qui ne se blesse pas.
Et qui ne se blesse pas non plus.
Comment reconnaît-on ? Quand on est sur les étals comme ça, comment reconnaît-on pour le consommateur un bon crabe ?
Un bon crabe sur l'étal ou dans son aquarium, il faut qu'il soit très bronzé, bien brun.
Donc on le retourne, on regarde
son ventre et il doit être bien brun et la coque un petit peu décollée du corps, quoi. Voilà.
D'accord.
Et là, ça veut dire que généralement il est bien plein. Généralement, c'est toujours pareil. Hein. Si vous prenez un tourteau en juin, juillet, août, septembre. Vous n'aurez pas de soucis. Choisir un crabe un peu plus plein en janvier, voilà. Hein, quand les femelles vont aller pondre au mois de novembre en mer, sous le sable, vous les revenez, elles sont fatiguées et ça claque beaucoup plus vite. Quoi.
Alors, à propos, on préférerait quoi, un mâle ou une femelle ?
Ah, ça.
C'est chacun. Hein.
C'est chacun. Moi, je n'ai pas d'opinion pour le consommateur. Je leur dis, bah, c'est comme vous voulez. Quoi. Hein, donc, un tourteau femelle, quand il est bien coraillé, les gens adorent aussi.
Ouais.
Voilà.
Corallé, c'est-à-dire qu'il y a les œufs à l'intérieur.
Les œufs vont arriver, ouais, voilà.
C'est ça. Alors, comment on reconnaît pour un consommateur un mâle et femelle ?
Un mâle et femelle, vous regardez sur le ventre et puis vous la décollez. Il y a la poche des œufs.
Ouais, c'est ça.
Voilà.
Ouais. La forme n'est pas la même.
Voilà. Et un tourteau mâle, vous reconnaissez pour la même proportion, pour la même taille. Le tourteau mâle a des pinces beaucoup plus grosses et il a un dos plat, alors que la femelle est beaucoup plus bombée.
Mais voilà. Qui est justement pour recevoir ses œufs.
Tous ses œufs, voilà. Ouais.
Est-ce qu'on plonge le crustacé pour la cuisson dans de l'eau froide ou dans l'eau chaude ?
Ah, y a plein d'écoles. Pour ma part, je préfère l'eau chaude. Alors, c'est un inconvénient, c'est que le tourteau perd ses pinces, puisque c'est son dernier combat avant de mourir. Il largue, c'est sa dernière défense, il largue toutes ses pinces et c'est un petit peu moins présentable.
Mais
c'est mieux votre produit. Votre crabe, il meurt tout de suite et puis vous le cuisez en 20 minutes, enfin, suivant la taille. Et puis voilà.
Donc maintenant,
parce que l'eau froide, si vous voulez... moi je trouve que c'est un petit peu dommage dans le sens où vous posez un tourteau dans de l'eau froide à, je sais pas, on va dire 20 degrés, puis vous lui dites attendre un petit quart d'heure que l'eau monte à 80, donc c'est pas très agréable. Voilà.
Il sue,
oui. Voilà. Donc autant lui épargner ses souffrances.
Et qu'est-ce que vous pensez de, parce qu'on en parlait tout à l'heure, là, maintenant en tant que professionnel, vous cuisez tout à la vapeur quasiment.
Moi voilà, oui, maintenant j'ai un petit atelier de cuisson pour, je le rappelle, le détail, et on fait tout vapeur. Ouais. Voilà.
Alors moi je peux rajouter que personnellement j'ai toujours cuit mes crustacés dans très peu d'eau, de façon à faire un lit d'eau, de façon à ce qu'on fasse
une vapeur.
Et pour moi c'est comme ça que je préfère. Alors, chers auditeurs, vous sentez cette bonne odeur de crustacés qui vous monte au nez, hein. ces crustacés tout rouges qui sortent de la marmite. Alors je vous souhaite un bon appétit à tous et puis à la prochaine fois. Merci Pierre, merci.
Merci, je vous en prie. Au revoir.
Au revoir.